Aujourd'hui, je voudrais lire comme arrière-plan, on va dire, Luc chapitre 12. Et verset 42-43, donc ça fait la page 1038. Verset 42. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur quand son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Donc, on va le relire. Le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? OK? Donc, ça c'est, on va revenir, c'est le mot économe qui nous intéresse dans ce verset. Aussi, donc, nous sommes dans Colossiens, donc les messages ces derniers temps et jusqu'au dimanche prochain sont dans le livre Colossiens. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Donc, je vais lire trois versets. C'est à la page 1185. 1185. Donc, Colossiens chapitre 3, verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Donc, on ne va pas entrer dans tous les détails aujourd'hui, c'est simplement pour nous rappeler que ce que nous faisons en tant que chrétien, est toujours baigné dans l'amour, et l'amour voulant dire exprimer le bien envers les autres. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et puis, dans le verset 16, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Donc, je lis que la moitié du verset. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Pour dire que Dieu veut que, en tant que chrétien, notre vie soit focalisée, quelque part gérée par la parole de Dieu. Donc, autre dimanche, on avait parlé un peu de ça au centre de notre vie. Donc, on est chrétien, donc on a reçu Jésus comme notre sauveur. Et sa parole, donc en rose là, c'est sa parole qui nous donne les instructions de vie. On sait comment vivre parce que Dieu l'a dit dans sa parole. Et donc, ça aura des implications dans toutes les parties de la vie, le travail, la santé, le conjoint, les enfants, les parents, la communion fraternelle, toutes les parties de notre vie. Eh bien, la parole en part quelque part. Et donc, on arrive au verset 17. « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » OK? Donc, quoi que vous fassiez, que ce soit parole ou action, il dit, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Et donc, ça, c'est assez large comme sujet. OK? Et c'est à partir de ce sujet assez large que je vais entamer certains détails sur les choses qu'on a déjà discutées. Donc, dans les enregistrements, vous avez les autres messages, surtout en ce qui concerne la famille, qu'on va parler un petit peu aujourd'hui de la famille, mais on m'a posé des questions pour des clarifications, et donc je voulais revoir certains détails pour clarifier ces choses, pour que tout le monde comprenne bien ces choses. Donc, on saute un petit peu à droite et à gauche, désolé. On est dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, versets 6 à 9, que nous allons lire. Marc chapitre 10, c'est la page 1005. La page 1005, on va lire Marc, chapitre 10, à partir du verset 6. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, quand Jésus a parlé du mariage, il a dit que depuis toujours, depuis Adam et Ève, c'était le plan de Dieu. C'est l'idée de la famille étant donc à partir d'un couple. Et donc, dans la Genèse chapitre 1, donc ça c'est facile à trouver, hein, parce que c'est au début de la Bible. Genèse chapitre 1, c'est le premier chapitre de la Bible. Et je vais lire donc chapitre 1, versets 27 et 28. Genèse chapitre 1, versets 27 et 28, c'est la page 2 dans ma Bible. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et sa femme. Donc il ne faut pas penser que Dieu a créé que l'homme, parce que Dieu a créé le couple. Quand il a fait l'humanité, il a commencé avec Adam. Et puis, il a fait le contrepartie. Ce n'était pas simplement le masculin que Dieu a fait. Il a fait le masculin et le féminin. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez fécondes, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se mue sur la terre. » Donc, ce qui nous intéresse là, c'est l'idée, c'est que Dieu a fait le couple et avant le péché, il a dit « multipliez-vous ». Donc, l'idée de procréation est dans la création. Dieu a fait les êtres humains, mâles et femelles, afin de se reproduire pour que l'être humain puisse être là jusqu'à nos jours, n'est-ce pas? Et donc, en parlant de l'homme et de la femme, Genèse chapitre 2, verset 15, c'est la même page. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc, depuis le début, Dieu a donné un travail à l'homme. Okay? Donc, c'est normal qu'on veut travailler. On veut être actif dans la vie. Les gens qui sont oisifs, qui n'ont rien à faire, ça tourne dans l'esprit et puis on va faire des bêtises. Okay? Donc, il est important que tout le monde soit actif. Mais l'homme, il a dit que tu vas cultiver la terre. Et puis la femme, dans le verset 18, c'est toujours la même page, l'Éternel a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, Dieu allait faire une contrepartie à Adam. Donc, Dieu a fait l'homme et puis en contrepartie, il a fait la femme, une aide semblable à lui. Donc, il n'a pas fait l'homme et une vache ou l'homme et un singe, il a fait l'homme et la femme. Et donc, à la base, et on voit avec la femme que sa souffrance, à partir du péché, que la souffrance dans la grossesse sera augmentée, d'accord? Mais le point, c'est que on a l'homme. Donc, moi, je parle, excusez-moi, hein, mais je parle en généralité très globale. Donc, dans 30 minutes, je ne peux pas donner tout un cours sur l'humanité, les finances et le foyer. Donc, je donne quelques petits détails de base aujourd'hui. Donc, on peut parler plus de détails individuellement, si quelqu'un veut bien. Mais globalement, à la base, depuis la création, l'idée, c'est que l'homme doit pourvoir, et il doit protéger. Dieu a fait l'homme plus fort que la femme, il doit protéger. Et la femme est son aide. Donc, ce que l'homme fait, la femme est son aide. Et ce que l'homme ne peut pas faire, elle porte des enfants. C'est la femme qui va avoir les enfants. Okay? Donc, c'est l'ordre de la nature, c'est l'ordre de la création, on ne peut rien faire. C'est comme ça. On dit, moi, je ne veux pas avoir des enfants. Bon, d'accord, mais si vous êtes une femme, vous pourrez avoir des enfants. Mais je veux avoir un enfant. Mais si vous êtes un homme, vous ne pouvez pas. C'est comme ça, la nature est ainsi. Alors, contrairement à la volonté de Dieu, eh bien, beaucoup d'hommes ont failli dans leur rôle de pourvoir, pourvoyer, de pouvoir, ben voilà, merci, et de protéger. Et en plus, souvent, les hommes ont brutalisé ou abandonné leurs femmes. Donc, ce n'est pas un beau tableau pour les hommes. D'accord? Et donc, globalement, je parle en généralité, excusez-moi, mais je ne peux pas le faire en détail, mais globalement, je vais dire, la société a réagi à cette situation qui traîne depuis des millénaires. Eh bien, la société a réagi par la contraception et la carrière féminine. C'est-à-dire, aujourd'hui, beaucoup de femmes s'occupent d'elles-mêmes parce qu'elles ne peuvent pas faire confiance aux hommes. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais c'est globalement le problème aujourd'hui. Hein? C'est que les hommes ne sont pas fidèles et donc les dames savent s'occuper d'elles-mêmes. Donc, par son travail et en évitant d'avoir des enfants ou même en les tuant pour être libre. Donc, je veux mettre un point. La contraception est acceptable. Il n'y a rien dans la Bible contre la contraception. Mais l'avortement est un péché. Donc, tuer un enfant, ce n'est pas bien. Et je voudrais dire aussi que le mariage et la grossesse ne sont pas des maladies. « Oh, elle est tombée enceinte !» Comme ça. Quelle horreur. Non. On est marié, c'est une bonne chose. On va avoir un enfant, c'est une bonne chose. Ce n'est pas une maladie, ce sont des bénédictions. OK? Et c'est de là, donc, je parle aux croyants, donc, le choix de votre conjoint ou conjointe est très important. Donc, la plus importante question de la vie, évidemment, c'est de régler son état devant Dieu, d'avoir le pardon de nos péchés. Mais à partir de là, la prochaine grande question, c'est le conjoint. Parce qu'on va passer la vie avec cette personne. Et cette personne va être une bénédiction ou une malédiction. Donc, si vous choisissez mal, bon, c'est votre faute. Et si vous choisissez bien, ben, vous avez bien choisi. OK? Mais c'est très important. Et puis, bien sûr, vous voulez choisir un conjoint qui partage les mêmes idéologies, la même foi, la même optique de vie, la même optique financière, etc. Vous voulez choisir quelqu'un qui corresponde à vous pour que vous soyez un couple uni. Et donc, évidemment, les relations sexuelles depuis Adam et Ève font partie intégrale du mariage. Okay? C'est la volonté même de Dieu depuis la création. Donc, on a dans certaines optiques anciennes chrétiennes, on pense que, voilà, soit on est célibataire et on plaît à Dieu, ou on est défaillante, on est marié et tant pis, ben, c'est comme ça. Mais non, le mariage et la procréation font partie du plan de Dieu, et donc c'est une bonne chose. Par contre, si vous êtes marié et vous abstenez sans consentement de relations sexuelles, là, vous créez aussi un péché. Okay? Donc, si vous êtes marié, ça fait partie du mariage. Vous partagez le lit et c'est normal que vous avez des relations sexuelles. Et ça n'a rien à voir avec le péché parce que vous êtes marié. Donc, une chose qu'on ne dit pas très souvent, mais dans ce parcours rapide, je veux le dire, eh bien, il y a plein d'hommes qui sont malveillants. Non pas seulement que les hommes ont failli dans leur responsabilité envers leurs femmes et leurs enfants, mais il y a plein d'hommes qui sont malveillants et ils sont en général plus forts que les femmes et les enfants. Et c'est pour cela qu'il y a, donc je n'entre pas dans les questions sociales, médicales, etc., mais il y a des viols et des kidnappings des femmes et des enfants. On peut toujours faire la même chose envers un homme. Mais c'est plus difficile pour un enfant d'être plus fort qu'un adulte, n'est-ce pas? Donc, c'est pour cela que
Être seul et isolé n'est pas une bonne idée.
On voit souvent les femmes, surtout dans les films et tout ça, une femme, elle va courir toute seule à travers la forêt et tout ça. Non. Vous pouvez le faire. Je ne dis pas que c'est interdit, mais vous vous mettez à risque. Je me souviens qu'on en était tout au début, il y a 32 ans, on passait, je crois que c'était un dimanche, et l'église se promenait dans une forêt à Metz. Et puis, il y a deux, trois dames qui ont été un peu plus lentes que le reste, et puis un homme qui est venu s'exposer devant les femmes. Vous voyez? Si les femmes avaient été avec l'homme, cette personne n'aurait pas le fait, parce qu'il aurait été tabassé. Vous voyez? Donc, il faut que vous vous protégez. C'est normal. Alors, je ne sais plus les détails, mais on avait un ami, un Français, qui était élevé en Tunisie. Et il avait un homme de protection. Donc, on ne laissait pas l'enfant tout seul. Il allait à l'école. Je ne sais plus si c'était un chameau, ou un cheval ou en voiture. Il avait toujours celui qui protégeait. Parce qu'on ne laissait pas l'enfant tout seul. Comme on ne laisse pas la femme toute seule. Ça se peut. On est dans un monde moderne. Mais avoir des cours de self-defense, je ne sais pas, de protection de soi, ne sont pas une mauvaise idée. Surtout si vous allez vous trouver toute seule. OK? Donc, je ne parle pas de péché de nous. Je parle qu'il y a des gens agressifs, malhonnêtes, qui sont méchants. Et vous devez vous poser. Oh, mais non, il n'y a pas tout près de moi. Oui, à tout près de vous. Aux États-Unis, il faut que ces gens se déclarent. Ils entrent dans une ville, ils doivent se déclarer. On connaît tous les malfaiteurs sexuels, ils sont tous réparés, peut-être répertoriés. Peut-être en France aussi, je ne sais pas comment ça marche ici. Mais voilà, donc ça fait un côté. Second sujet, c'est le sujet du foyer, d'accord? Donc, je vais parler de ça, je vais parler de ça. Donc, voilà, j'ai fait deux plans du foyer. Donc, ce n'est pas pour dire que c'est parfait, mais puisque c'est dans le paquet, il faut que je vous l'explique. D'accord? Donc, j'ai appelé ce côté à droite le foyer moderne. Parce qu'il faut titrer. OK? Mais enfin, c'est aussi ancien que toujours aussi. D'accord? Et l'autre côté, à gauche, j'ai dit le foyer idéal. Encore, j'ai dit ça parce qu'il faut un mot, d'accord? Mais je vais parler en premier du foyer moderne, d'accord? Donc, je vais mettre ça là. Peut-être que je ne vais pas le mettre là. Voilà. Donc, par le foyer moderne, je veux dire la réalité de la vie. OK? La réalité de la vie est complexe et il y a plein de différences dans la vie. Il y a des veuves. Donc, une veuve, elle ne peut pas avoir un foyer idéal. Il n'y a pas un homme. Ou un homme divorcé, il n'a pas une femme. Il a peut-être des enfants. Donc, c'est un peu déséquilibre. Il y a toutes les situations diverses. Qui fait en sorte que on a un foyer qui est, je vais dire, déséquilibré, d'accord? Donc, quand on a deux personnes dans la famille, homme et une femme, donc l'homme va au travail et la femme va au travail. Je dis pas que c'est mauvais. On fait comme il faut faire. Il faut payer les factures, d'accord? Mais c'est pas toujours facile. C'est ça le point. Donc, l'homme est toujours allé au travail. Dans le sens global. Mais ce n'est pas toujours le cas pour la femme. Aujourd'hui, beaucoup de femmes vont au travail. Pourquoi? Parce qu'il faut. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de ressources chez l'un. Comme mon fils Guillaume est venu en France pour vivre avec sa famille, il avait un bon salaire. C'était bien. Mais sa femme n'avait pas le droit à travailler. Et donc, ensemble, ils ne pouvaient pas payer le loyer. Donc, ils ne pouvaient pas louer un appartement, donc ils sont partis chez eux. Ils ont quitté la France parce qu'il n'y avait pas moyen de rester en France. Si elle avait travaillé, elle aurait pu apporter de l'argent et en deux, ils auraient pu payer le loyer, etc. Donc, dans le foyer que j'ai dit moderne, ce qui en fait c'est le foyer typique ancien, on a l'homme qui travaille, on a la femme qui travaille, et on a le temps pour une vie familiale qui est assez minimum. Parce que tout le monde est occupé, eh bien, on n'a pas beaucoup de temps pour une vie familiale. Donc, comment s'occuper des enfants quand maman et papa ne sont pas à la maison? On va sous-traiter. Donc, j'ai parlé de ça l'autre fois. On fait sous-traitance à l'État. Donc, on met les enfants à l'école. Mais peut-être il faut partir très tôt pour le travail. Donc, on va mettre les enfants chez la nourrice. Et après l'école, eh bien, chez la nourrice. Et peut-être à la fin de soirée, on va revoir les enfants pour dire bonne nuit. Et on va faire ça 5-6 jours par semaine. OK? Donc, il n'est pas correct pour une vie familiale. Donc, on aspire à avoir une meilleure vie familiale. D'accord? Et puis, donc, dans un foyer, quand monsieur et madame travaillent parce qu'il faut, eh bien, qui fait tout le travail domestique? Qui fait la cuisine? Qui fait le ménage? Qui fait toutes les choses qui doivent être faites? Peut-être on partage, si on parle bien. Ou peut-être on dit que la dame va tout faire, son travail, 35 heures, et travail à la maison, 20 heures. Et puis bon, tant pis si elle ne dort pas trop bien. Hein? Ça, c'est pas idéal, n'est-ce pas? Donc, le mieux dans ce cas, c'est qu'on partage quand même les responsabilités. Et je vous donne un exemple, Ruth, dans l'Ancien Testament. Donc, Ruth était veuve. Elle était sans ressources, d'accord? Et donc, aussi, elle se trouvait à la fois sans ressources et sans droits dans un pays étranger. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va glaner sur les bords des champs pour avoir la nourriture pour elle et sa belle-mère pour manger, d'accord? Boaz a constaté qu'elle était là, qu'elle était étrangère et qu'elle était sans protection. OK, dans l'histoire de Ruth, vous pouvez le lire. Et donc, Boaz va ordonner aux gens, aux hommes qui travaillaient pour lui, de la laisser tranquille, de ne pas la toucher. Bon, ça laisse entendre plein de choses. Quand on dit aux hommes de ne pas toucher une femme, n'est-ce pas? Parce que, autrement, les hommes méchants auraient pu faire les méchancetés. Harcèlement, viol, méchanceté, quand les dames sont au travail, il y a beaucoup de pression qu'elles n'auraient pas où si elles étaient chez elles. Il y a des patrons méchants qui poussent, tu vas coucher avec moi, tu vas garder ton travail, tu vas coucher avec moi. Et ce genre de choses qui se passent dans le milieu du travail, c'est pas légal. C'est bien en France, on a beaucoup de protection sociale, mais ce genre de choses arrivent. Et ce n'est pas bien. Donc, à la fin, Boaz va se marier avec Ruth. Et elle va devenir la femme dans l'autre modèle. Donc, au début, c'était la femme toute seule qui faisait tout le travail. Elle était à risque et tout ça. Après, elle se mariait et elle va devenir la femme dans un foyer avec un enfant. Elle va avoir un enfant, mais un homme riche. Donc, quand je parle donc, du foyer idéal, je parle surtout de l'idée d'une une famille prospère et libre. Qui aspire, comment dire? Aspire. Qui aspire à être pauvre? Qui veut être pauvre parmi nous? Sans ressources. Personne. OK? Donc, l'idée, c'est d'être suffisamment prospère pour avoir un peu de liberté. Et c'est ça, quand je parle de la famille idéale, je parle d'une famille prospère et libre. Donc, ce n'est pas une famille esclave. Il n'y a jamais dans la Bible, on encourage les dames à être Hagar, l'esclave de Sarah. On dit que voilà votre modèle, Sarah, une dame d'une famille prospère et libre. OK? Donc, l'idéal, c'est le haut et non pas le bas. Et Dans une famille idéale, donc l'homme est là en tant que l'autorité qui protège. Okay? Et la femme est donc protégée et active. Elle est libre à agir. Donc c'est un peu difficile pour nous de comprendre cette chose-là, mais quand on a de l'argent, eh bien on peut faire ce qu'on veut. Et quand on n'a pas l'argent, ben, ils vont faire comme il faut pour avoir l'argent. Hein, c'est comme ça, n'est-ce pas? Donc, quand on lit, dans, par exemple, 1 Timothée chapitre 5, donc on va trouver le verset, 1 Timothée chapitre 5, alors, je vais vous lire une liste des choses que Dieu attend des femmes. OK? Mais je vais vous avertir déjà d'avance avant que... Laissez les pierres par terre, s'il vous plaît. Avec tout ce que je vais vous dire, Dieu attend des hommes aussi. Ça, c'est une chose qu'on ne voit pas très souvent. Tout ce qu'on va être dans cette liste que Dieu attend des femmes, on va trouver d'autres versets qui disent que l'homme doit faire la même chose. Et des fois, c'est exactement le même mot dans la Bible, d'accord? Donc voilà, 1 Timothée chapitre 5 et verset 14. Je veux donc c'est un texte inspiré, on voit la volonté de Dieu. Je veux donc que les jeunes femmes se marient, bon ça c'est tout à fait normal, qu'elles aient des enfants, ben, les hommes ne peuvent pas le faire, qu'elles dirigent leur maison, on va revenir sur ça, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Donc ça, c'est les gens non chrétiens qui veulent médire les chrétiens ou le diable, mais c'est les ennemis. Alors, le mot que je voudrais voir surtout, c'est ce mot « diriger leur maison ». C'est un mot intéressant. C'est un mot qui veut dire, donc ça se traduit directement, « despote de la maison ». OK? Qu'elle soit le despote de la maison. Vous savez, le despote, c'est un peu comme dictateur. Okay? Mais ça se traduit correctement, administrateur domestique, gouverneur d'un ménage ou gérer le foyer. Okay? Je veux que la femme gère le foyer, qu'elle soit administrateur. C'est beaucoup plus intéressant comme femme au foyer. Qu'est-ce que vous faites, madame? Je suis femme au foyer. Oh, vous voulez dire que vous ne faites rien? Non, je suis très occupée, monsieur. Vous voyez la différence quand on dit femme au foyer, ça semble que bah, c'est le plus bas de la société. Et quand on dit administrateur domestique, ça pourrait être quelqu'un qui gère plein de choses, ce qui est le cas. Un autre verset, je ne vais pas chercher tous les versets, mais je vais vous donner les références. Tite, chapitre 2, verset 5, elle doit s'occuper des soins domestiques. La femme doit s'occuper des soins domestiques. 1 Timothée chapitre 5, verset 14 encore, qu'elle doit élever ses enfants. 1 Timothée chapitre 2, verset 10 et chapitre 5, verset 10, elle doit faire des œuvres bienfaisantes. Et puis 1 Timothée chapitre 5 et verset 10, elle doit faire de l'hospitalité. Donc voilà, administrer la maison, s'occuper des soins domestiques, élever les enfants, faire les œuvres bienfaisantes, exercer l'hospitalité. Alors, ce que je vous ai déjà dit, un homme doit faire tous la même chose. Alors, vous avez la femme qui doit faire tout ça et l'homme qui doit faire tout ça. Donc, ça fait un bon conflit, n'est-ce pas? Si tous doivent faire la même chose. OK? Mais par exemple, quand il dit que l'homme doit diriger la maison, c'est un mot différent qui parle de l'autorité. Donc, en fait, l'homme reste l'autorité qui pourvoit et qui protège. Tandis que la femme, avec l'homme, avec son mari, eh bien, travaille ensemble. Ce n'est pas une compétition, mais c'est comme, on doit le voir, un foyer et comme une entreprise. Et tout le monde fonctionne pour la réussite de l'entreprise, au lieu de faire la guerre pour détruire l'entreprise. En plus, on voit dans Proverbes chapitre 31 qu'il y a un principe tout à fait biblique, une dame qui gère bien sa maison. Bon, donc, dans le temps, c'était les domestiques, c'était les esclaves et tout ça, donc elle gérait tout ça. Eh bien, elle avait peut-être temps pour faire de surprotection. De faire encore plus de choses, de faire des choses. Elle fait plein de choses, elle fait plein d'argent, elle va acheter un champ, elle va faire une exploitation agricole à côté de ce que fait le mari. OK? Et donc, mais ça, c'est volontaire. Elle avait le temps, elle avait les moyens, et elle s'est dit, je vais acheter ce champ là-bas, et je vais l'acheter, et je vais faire une production en plus. Parce que elle voulait. OK? Vous voyez ce que je veux dire? C'est volontaire. Quand on est on a un petit salaire et on doit payer le loyer et tous les trucs, eh bien, on a du mal à dire que tiens, je vais acheter un champ et je vais travailler dans le champ. Parce qu'on est déjà occupé avec tout ce qu'il faut faire. OK? Donc, c'est la différence entre les deux foyers-là. Je ne donne pas, ce n'est pas une condamnation de l'un ou de l'autre. C'est de dire que vous pouvez être le plus pauvre ou vous pouvez aspirer à monter dans la vie. D'accord? Mais le point que je veux donner, c'est que quand on a l'optique biblique de la dame, l'idéologie biblique valorise la femme plus que toute autre optique. Même l'optique moderne qui parle de la femme libérée et tout ça. Mais quand vous observez, vous voyez, ah, la dame a un avortement. Pourquoi? Parce que l'homme ne voulait pas être responsable et il a forcé la dame d'aller faire un avortement. Ah, c'est souvent ce qu'on entend. Ce n'est pas elle qui voulait l'avortement, c'est lui et sa famille à lui, etc. Donc, parler de la liberté de la dame, d'accord, mais la réalité, ce n'est peut-être pas aussi valorisant que ça. Après, donc, je veux parler encore 5 tout petites minutes de l'autre tableau, voilà. Vous avez ça aussi dans votre paquet là. Donc, je voulais donner quelques rapides explications de ça. Donc, vous avez, pour votre entreprise familiale, votre foyer, vous avez les entrées, vous avez les sorties. D'accord? C'est comme ça. Il faut avoir plus d'entrées que de sorties. Autrement, vous êtes endetté. Ça va? C'est facile. OK? Donc, nous, on utilise, c'est pas cela, mais c'est quelque chose comme ça. Vous voyez, à l'intérieur, il y a dépenses, ressources, recettes, et puis solde. OK? On fait ça chaque mois, OK? Pour savoir où vous êtes dans vos finances. Moi, j'ai fait de simplicité, d'accord? Je donne, c'est global, d'accord? Donc, ça, c'est les ressources en vert, là. Vous avez un salaire, vous avez peut-être une allocation, quelque chose. C'est l'argent qui entre chez vous. OK? Après, vous allez dépenser. Donc, les dépenses, il y a des dépenses obligatoires. Donc, moi, en tant que chrétien, j'ai dit mon première dépense obligatoire, c'est pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Donc, je donne ma dîme tous les mois. C'est la première chose. Et on écrit première ligne tous les mois, c'est là. Après, il faut respecter le gouvernement. Donc, ils vont vous le faire maintenant, prélèvement à la source, mais normalement, c'est votre responsabilité de payer vos impôts. Bon, parce qu'il y avait trop de problèmes, les gens ne payaient pas, peut-être c'est ça. Pourquoi le gouvernement a décidé qu'ils vont prendre ça à la source? Mais de toute façon, il faut respecter Dieu et le gouvernement. On s'occupe de ça. Après, il y a des remboursements si vous avez des dettes. Ben, vous êtes responsable de payer vos dettes. Logement, il faut le payer. Après, il y a plein d'autres choses, les taxes, l'eau, l'EDF, assurance, etc. Ce sont des obligations. Donc, nous, au début de chaque mois, avant même que l'argent parte, on met tout dans une liste, tout l'argent qui va partir. On fait mensualisation et comme ça, on ne pense plus. Et on sait que cet argent est parti. Après, il y a d'autres choses, d'autres dépenses qui sont nécessaires, comme nourriture, transport, des choses comme ça. Et là, donc, j'ai dit nourriture, transport, hygiène. Qu'est-ce que j'ai marqué là? Je ne peux même pas le lire. Oh, produits pour la maison, etc. OK? Et encore d'autres dépenses ici-bas. OK? Donc, il faut gérer tout ça. Il faut visionner comment vous allez dépenser l'argent que vous avez en entrée et en sortie. Obligatoire, et puis le petit peu qui reste là, hein, ça c'est pas beaucoup.
mais à éviter de dépenser votre argent sur le péché, pour faire le mal. OK? Ça, c'est interdit, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on dit péché, parce que c'est faire le mal. Et il y a ici un mot là, ça s'appelle vice, les vices. Donc, les vices sont les choses qui ouvrent au péché, ou qui ouvrent à la misère, ou à la pauvreté, ou à mauvaise santé. OK? Donc, c'est très, comment dire, l'opposé de recommandation, c'est quoi?
Interdiction.
Non, pas interdiction, mais...
manque de sagesse.
C'est un manque de sagesse de dépenser, par exemple, acheter, de par exemple, aller sur Internet, faire le poker. Dépenser tout votre argent qui reste sur le poker. Je me souviens quand on était à Metz dans le zone, eh bien, les hommes cambodgiens, l'allocation familiale tombait le premier, eh bien, ils avaient déjà parié tout l'argent dans leur groupe d'hommes cambodgiens, quelqu'un gagnait tout, et tous les autres, la famille était pauvre pour le reste du mois, parce qu'ils ont parié tout. OK? Donc, jeu de hasard, cigarette, alcohol, ces choses, c'est pas interdit. La Bible ne interdit pas. Mais la chose, c'est, ça ouvre, donc vous connaissez bien, j'ai déjà raconté l'histoire d'un fils de missionnaire, comme moi, missionnaire. J'ai 4 fils, donc heureusement, ce n'est pas arrivé, mais un autre missionnaire, son fils, il a commencé à faire les jeux d'hasard. Il s'est endetté. Comment faire pour rembourser? La dette était trop grande, vous avez vu ça dans les films. Hein? Ah ben, vous allez participer dans cette vol. Et donc, il a participé dans un vol pour rembourser son dette. Et c'était aux États-Unis, donc il y avait un pistolet qui était volé avec l'argent. Et quand il y a une arme dans un crime, dans un vol, eh bien, c'est une obligation de pénalité dans la prison. Donc, ce fils de missionnaire, il est à perpétuité dans la prison. Parce qu'il a fait une vice. Vous comprenez la différence. Je ne dis pas péché, mais ça ouvre au péché. Ça ouvre à une mauvaise santé. Ça ouvre à une perte d'argent et donc la pauvreté, etc. Donc, voilà. On peut parler de ça, OK, en privé. Surtout si vous avez des difficultés avec votre budget, je veux bien discuter ça avec vous. OK, je ne connais personne dans leur utilisation de l'argent, mais c'est pour vous aider. Si vous avez besoin, je veux bien vous aider. OK? Donc là, on a parlé de 3 choses. On a parlé de couple. On a parlé du foyer. Comme c'est dans la réalité, c'est difficile. Mais on peut aspirer à avoir une meilleure vie. On n'arrive pas. Ce n'est pas une condamnation, mais à reconnaître que c'est plus difficile quand on est tout seul de gérer toute une famille que qu'on est à 2 avec 2 bons salaires. C'est ni bien ni mal. Ce n'est pas ça. C'est une question de facilité dans la vie. Et puis, on a parlé brièvement de l'économie. L'économie familiale. Économe. Et donc, j'espère que ça aide. Normalement, vous savez bien, je ne parle pas des choses pratiques comme ça, mais c'était pour justement expliquer un petit peu ce qui sont dans les paquets. Okay? Donc, on ne veut pas oppresser les femmes, ce n'est pas du tout l'idée. C'est de les rendre le plus libres possible pour faire ce qu'elles veulent faire. C'est ça l'objectif. Pour qu'elles soient libres et protégées à faire comme elles veulent. Ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours possible, mais si c'est possible, pourquoi pas, n'est-ce pas? Oui, bon, voilà. Donc, si vous voulez parler plus, on peut faire ça.